Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 8 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En République démocratique du Congo, les anciens candidats à la présidence, Martin Fayulu et Théodore Ngoy, sont convoqués mercredi au parquet. Au Tchad, l'organe régulateur des médias a suspendu 12 journaux pour non-conformité à la loi. Les négociations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ont repris dans un climat tendu. En Californie, aux États-Unis, 14 000 pompiers luttent contre des incendies qui ont ravagé 8 000 km². Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En République démocratique du Congo, deux anciens candidats à la présidence, Martin Fayulu et Théodore Ngoy, sont convoqués au parquet mercredi après avoir soutenu que le président Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Le point avec Eddy Sango.
Martin Fayulu et Théodore Ngoy doivent se présenter au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe mercredi à 11h. L'officier du ministère public indique dans leur invitation que les motifs leur seront communiqués sur place. Le week-end dernier, une association, les Centres de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité, a annoncé avoir porté plainte contre messieurs Fayulu et Ngoy, les accusant d'inciter la population à la désobéissance civile et d'avoir attenté à la vie du chef de l'État. Cette association reproche à M. Ngoy d'avoir divulgué les contenus de la consultation avec deux de ses clients, les juges Noël Kilumba et Jean Oubounou. Ces magistrats de la Cour constitutionnelle refusent leur mutation à la Cour de cassation. Selon Maître Ngoy, l'avocat des deux magistrats, leur nomination a été faite en violation de la Constitution. Il demande au président Tshisekedi de s'amender, prévenant que le chef de l'État s'expose à la procédure complexe de destitution. Monsieur Martin Fayulu a exprimé son soutien à Maître Théodore Ngoy dans cette affaire.
Au Tchad, la haute autorité des médias a suspendu pour 3 mois la parution de 12 journaux pour défaut de conformité à la loi. Abdourahman Dia.
L'autorité met en avant une loi datant de 2018 qui exige que tout organe ou périodique ait un directeur de publication et un rédacteur en chef, tous deux formés en journalisme avec un niveau Bac plus 3 au moins. Elle demande à ces organes de presse de se mettre aux normes durant les 3 mois de suspension. Ces médias sont menacés de sanctions plus rigoureuses s'ils ne se conforment pas. Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Max Laungar, a qualifié ces sanctions de honte. La AMA doit lever ces mesures rapidement et leur donner un délai raisonnable pour que ces journaux puissent se conformer à la nouvelle loi, ajoutant que la mesure est inadmissible et fait du Tchad un pays sans droit. Depuis la libéralisation de l'espace médiatique en 1990, le nombre de titres de presse s'est multiplié au Tchad, avec une quarantaine de journaux, une soixantaine de radios privées et associatives et 5 chaînes de télévision.
Une délégation tchadienne emmenée par un fils du président Idriss Déby a rencontré ce mardi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter de l'éventuelle ouverture d'une ambassade à Jérusalem. Abdelkerim Déby et le chef du renseignement Ahmed Kogri ont rencontré Netanyahou et le chef du Conseil national de sécurité Meir Ben Shabbat à Jérusalem. Netanyahou avait annoncé la reprise des relations diplomatiques avec le Tchad en 2019 lors d'une visite à N'Djamena. Le président nigérian Muhammadu Buhari a demandé à ses homologues de la CDAO de résister à la tentation de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Nous devons respecter les règles constitutionnelles, en particulier en termes de limitation des mandats, a-t-il déclaré lors du sommet lundi à Niamey, dominé par le putsch au Mali. Parmi les participants figuraient les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et guinéen Alpha Condé, qui briguent tous les deux un troisième mandat controversé. 83 migrants, dont la moitié sont des femmes, ont été secourus la semaine dernière vers Dirkou, dans le nord du Niger, a annoncé l'OIM. 41 Nigérianes et des hommes nigérians, togolais, ghanéens et un malien ont été secourus le 3 septembre par la protection civile du Niger et des sauveteurs onusiens. Les migrants avaient quitté Agadez avant d'être abandonnés par des passeurs à 230 km de Dirkou. Le tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone a rejeté la demande de l'ancien président et chef de guerre libérien Charles Taylor d'être transféré de sa prison britannique dans un autre pays pour le prémunir du coronavirus. Charles Taylor a été condamné en 2012 à La Haye à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis pendant la guerre civile en Sierra Leone. Le chef du mouvement de contestation au Maroc, Nasser Zefzafi, et 6 autres détenus ont suspendu leur grève de la faim entamée il y a 3 semaines. Zefzafi est le numéro 2 du Irak, Najib Amjik, incarcéré à Fès, où il purge une peine de 20 ans ferme, avait été suivi dans le refus de s'alimenter par 5 autres compagnons détenus dans des prisons différentes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les négociations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ont repris dans un climat tendu. Londres menace de claquer la porte si des progrès ne sont pas réalisés cette semaine. Le point avec Eric Manirakiza.
David Frost, le négociateur britannique, a affirmé vouloir faire passer un message clair à son homologue européen, Michel Barnier. Nous ne pouvons plus nous permettre de ressasser les mêmes choses après 6 mois de dialogue, a-t-il prévenu. Depuis le divorce prononcé le 31 janvier après 46 ans de mariage houleux, Bruxelles et Londres tentent de conclure un accord de libre-échange post-Brexit. Les négociations butent sur la pêche et la concurrence équitable. L'Union européenne veut un accord d'ici à la fin octobre pour permettre une ratification dans les temps. De son côté, le Premier ministre Boris Johnson a averti qu'une faute de compromis d'ici au sommet européen du 15 octobre, il se satisferait d'un no deal, ce qui inquiète déjà les milieux d'affaires. Les discussions qui duraient jusqu'à jeudi s'annoncent tendues au lendemain de l'annonce par Londres de sa volonté de revenir sur certaines parties de l'accord, notamment sur les arrangements douaniers pour l'Irlande du Nord.
Ici aux États-Unis, des incendies ont ravagé plus de 8000 km² en Californie, obligeant de nombreux habitants à fuir ces feux d'une ampleur inédite depuis 1987. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
C'est la première fois en 33 ans qu'on dépasse les 8000 km², a déclaré Lynn Tolmachoff, porte-parole des pompiers, ajoutant « Et nous sommes encore loin de la fin de la saison des incendies ». Plus de 14 000 pompiers ont été déployés pour combattre 24 incendies en Californie. Dans le nord de cet État, un feu incontrôlé a détruit près de 55 000 hectares et 65 000 bâtiments. Plusieurs localités de cette région ont reçu l'ordre d'évacuer, mais des dizaines de personnes se sont retrouvées piégées par le feu qui se propage rapidement. La fumée rend difficile l'approche des hélicoptères de l'armée pour procéder à leur évacuation, a expliqué le chef des pompiers Tony Escobedo. Un autre incendie, déclaré dimanche, se propage dans le nord-ouest de la Californie et a détruit plus de 400 hectares. Selon la météo, la Californie a connu de fortes chaleurs durant le week-end, jusqu'à 49 degrés Celsius, un record pour le comté de Los Angeles.
Les États-Unis ont accusé la Chine d'avoir peur des médias indépendants, assurant avoir été informés par Pékin de son intention de restreindre davantage l'accès pour les journalistes étrangers. Les mesures proposées aggraveront l'environnement journalistique en Chine qui souffre déjà de la rareté de médias ouverts et indépendants, a déclaré la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus. Au Pakistan, un chrétien accusé d'avoir envoyé des SMS blasphématoires a été condamné à mort. Asif Pervez est en détention depuis 2013 pour des accusations portées contre lui par le superviseur de l'entreprise où il travaillait qui avait tenté de le convertir à l'islam. Le Bélarus a affirmé avoir arrêté l'opposante Maria Kolesnikova alors qu'elle fuyait le pays. La candidate Svetlana Tsikhanouskaya et Veronika Tsepkalo ont déjà dû s'exiler à l'étranger. L'Ukraine affirme que les autorités belarusses expulsaient des opposants, mais que Madame Kolesnikova avait résisté. Selon l'agence Interfax, elle a déchiré son passeport pour bloquer l'opération. C'est alors qu'elle a été arrêtée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La société française Géocoton veut investir 60 milliards de francs CFA dans l'entreprise parapublique camerounaise Sodecoton, mais à condition qu'elle en devienne l'actionnaire majoritaire. Le plan d'investissement de Géocoton s'étale sur une période de 7 ans et prévoit la modernisation des 9 usines pour pouvoir transformer 2500 tonnes de coton par jour. Il inclut aussi, entre autres, la construction de 3 nouvelles usines d'écrunage pour produire 600 000 tonnes de coton graines dès 2025. La Sodecoton est contrôlée à 59% par l'État camerounais, 30% par Géocoton et 11% par le milliardaire Baba Dampoulo. L'économie sud-africaine, la plus industrialisée d'Afrique, s'est effondrée de 51% entre avril et juin. Ce recul sans précédent du PIB est dû au strict confinement imposé dans le pays à partir du 27 mars afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus. Ce confinement a durement affecté la plupart des activités économiques. La construction, l'industrie manufacturière et l'exploitation minière sont les plus touchées, avec une baisse d'activité de plus de 70%. Pour terminer, l'Égypte compte exporter ses 10 gigawatts d'électricité excédentaire vers les marchés européens et africains. À en croire l'agence Ecofin, le pays, qui veut devenir une référence énergétique régionale, produit actuellement 50 gigawatts d'électricité, dont 10 gigawatts d'excédent. L'Égypte produit plus de 8% de son électricité à partir des énergies renouvelables et compte faire passer cette part à 40% d'ici à 2035.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Une femme au poste de présidente directrice générale du club en Tanzanie, Simba SC, champion en titre, a nommé Barbara Gonzalez à ce poste, faisant d'elle la toute première femme PDG de la Ligue de première division du pays. Gonzalez occupera le poste laissé vacant par le Sud-Africain Senzo Mbatha, qui a quitté le mois dernier ses fonctions pour les éternels rivaux Young Africans. Je comprends qu'une tâche énorme m'attend ici. Le club s'agrandit et notre objectif principal est de faire du Simba l'une des plus grandes équipes d'Afrique, a déclaré Barbara Gonzalez. Cyclisme, l'Allemand Pascal Ackermann a réussi le doublé en enlevant la deuxième étape de Tirreno Adriatico au Tour de France. Au terme d'une étape de 201 km, le champion d'Allemagne 2018 a devancé, comme hier, le Colombien Fernando Gaviria. L'Allemand Rick Zabel termine troisième. Au classement général, Pascal Ackermann possède 8 secondes d'avance sur Gaviria. Le Tour de France se poursuit sans son directeur Christian Prudhomme, déclaré positif au coronavirus. 4 autres personnes appartenant à 4 équipes différentes, Ionos, AG2R, la mondiale Cofidis, Mitchelton, ont été recalés au test de détection pratiqué à l'occasion de la journée de repos et ont dû quitter la bulle course. Basketball, plusieurs fois malmené, les Clippers ont finalement eu le dernier mot contre Denver, 113 à 107 pour mener 2-1 dans leur demi-finale de conférence. Les 32 points de Paul George ont été déterminants, mais celui qui a tenu la Maison Blanche a été le Terminator Kawhi Leonard, auteur de 23 points, 14 rebonds, 6 passes décisives et 2 contre, dont un exceptionnel à moins de 2 minutes du terme. Le quatrième duel de cette passionnante série aura lieu demain, mercredi. De leur côté, plus agressifs, plus adroits, les Celtics ont étouffé 111 à 89 les Raptors, désormais menés 3-2 dans cette demi-finale de conférence. Le Camerounais Pascal Siakam et ses camarades auront l'occasion de revenir au score demain mercredi lors du match numéro 6. Tennis avec des nouvelles de l'US Open. Novak Djokovic a exhorté ses fans à soutenir et prendre soin de la juge de ligne frappée par le jet d'une balle qui a entraîné l'élimination dimanche du Serbe du tournoi new-yorkais. L'arbitre a été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, le numéro 1 mondial a remercié ses fans pour leur message positif, tout en soulignant que la juge, touchée à la gorge après le geste de mauvaise humeur du Serbe, n'a rien fait de mal, contrairement aux critiques accusant l'officiel d'avoir exagéré la nature de sa blessure en s'effondrant à terre. Le Serbe de 33 ans a été disqualifié en raison de cet incident, intervenu lors de son 8e de finale contre l'Espagnol Pablo Carreño Busta.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, la CEDEAO demande aux militaires au pouvoir de désigner d'ici le 15 septembre un président et un premier ministre civil de transition. Cette décision de l'organisation sous-régionale intervient alors que le pays est sous embargo. Certains Bamako estiment que les militaires doivent attendre la concertation nationale du 10 au 12 septembre avant de répondre à cette exigence. Notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Dans la capitale malienne, les débats étaient focalisés autour de la transition. Les choix d'un militaire défendu par les uns et celui d'un civil par les autres. La décision de la CEDEAO ne semble pas être du goût de certains Maliens. Nounsar, membre du M5-RFP.
Nous pensons que la CEDEAO est dans son rôle. Elle veut se prémunir contre ce qui est arrivé au Mali. Et nous estimons qu'elle doit quand même être très regardante vis-à-vis de la situation du peuple malien, des conditions difficiles que le peuple malien traverse aujourd'hui. Donc nous appelons la CEDEAO à plus de retenue. Le peuple malien saura trouver les voies pour sortir de cette crise et pour faire en sorte que nous ayons une transition apaisée et acceptée de tous.
Dans l'administration publique malienne, on croit que la CEDEAO ne tient pas compte des réalités maliennes. Traoré Dado Camara, citoyenne.
On a l'impression que les chefs d'État de la CEDEAO prennent les décisions sans vraiment se rendre compte ou prendre l'avis de la population à la base. Toutes leurs décisions, je crois bien que ça a une conséquence directe sur la population à la base.
Les délais donnés par la CEDEAO aux militaires de désigner d'ici le 15 septembre prochain n'est pas une décision tenable, selon l'administrateur social Salif Bengali.
Je pense que la CEDEAO va très loin parce que les concertations ont été lancées le week-end dernier, notamment avec la première phase qui constitue la validation des termes de référence. Donc, c'est en fin de cette semaine qu'auront lieu les concertations prévues. Donc, la CEDEAO devrait attendre à ce qu'on finisse avec cette phase. Bon, en cette phase-là, on ne devrait même pas mettre de pression sur les peuples maliens.
Très remonté contre la CEDEAO, le vieux Moussa Bana Bagaga, enseignant à la retraite, nous donne son avis.
En amont, ils auraient pu éviter au peuple ce que nous sommes en train de subir. Ils n'ont pas fait un travail. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation, le peuple a renversé les citoyens maliens. Nous mettrons les gens que nous voulons. Nous ne serons les dictats de la CEDEAO, ça c'est leur affaire. Nous, Maliens, de façon souveraine, de façon concertée, nous mettrons les organes de la transition conformément à nos convictions intimes et profondes, conformément à nos valeurs morales ici.
Le Mali doit faire recours à ses valeurs sociétales, mais surtout revisiter son passé. C'est du moins l'avis de l'écrivain et journaliste à la retraite Daouda Tekete.
Nous avons eu tout faux de croire que c'est en nous ouvrant aux autres essentiellement que la sécurité, l'éducation, la santé de notre pays dépendent de l'apport de l'extérieur. Aussi longtemps que nous avons pensé comme ça, nos problèmes ne feront que s'aggraver.
Pour certains observateurs, désigner un président et un premier ministre de la transition n'est pas chose aisée. Car en temps normal, la désignation des personnalités pour des postes de responsabilité peut prendre beaucoup plus de temps que les délais donnés par la CEDEAO. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, durcissement des positions entre le gouvernement et certaines formations politiques au sujet de l'élection des conseillers régionaux prévue le 6 décembre. L'opposition, sous la houlette de Maurice Kamto, a prévu d'organiser des manifestations contre ce scrutin jugé inopportun dans un contexte de conflit dans les régions anglophones. Les pouvoirs publics ont promis de sévir en cas de trouble à l'ordre public. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Quelques heures après la convocation par décret présidentiel des corps électoraux devant élire les conseillers régionaux, Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, a été le premier à monter au créneau au cours d'une conférence de presse nocturne. Il a fermement averti les leaders de l'opposition contre toute forme de trouble à l'ordre public.
Je saisis donc cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupules contre tout agenda visant à perturber la tranquillité des Camerounais avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. Tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires.
Mais à travers les réseaux sociaux, Olivier Biboul-Nissak, porte-parole de Maurice Kamto, a annoncé dès le 22 septembre prochain un mouvement baptisé Cameroun Revolution. Paul Biya doit partir. Ce mouvement s'insurge contre la tenue du scrutin du 6 décembre prochain, sans résolution définitive de la crise anglophone et une réforme consensuelle du code électoral. Professeur Maurice Kamto, président du MRC.
Nous voulons nous sortir de la dictature du régime qui étouffe notre pays par la lutte pacifique dans cette lutte décisive. La violence ne pourrait donc être que le fait de M. Paul Biya et de son régime, et ils en porteraient l'entière responsabilité. Tenez-vous prêts, nous ne devons plus accepter d'être l'objet des moqueries des autres Africains. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée.
L'opinion publique est partagée sur cette montée de tension entre le gouvernement et certains responsables de l'opposition sur les conseils régionaux. Paul Tagne est militant du Social Democratic Front, le SDF, l'un des partis de l'opposition qui a appelé au boycott.
Normalement, on devait annuler ces élections. La constitution de 96 qui prévoyait que des chefs traditionnels devaient aussi participer, vu la guerre qui se passe à l'extrême nord du Cameroun, dans les deux zones anglophones, et que ces chefs sont éparpillés dans toute la République, les qui iront voter, par exemple le cas des deux régions anglophones. Aucun chef traditionnel sur les lieux, tous les maires et les députés élus là-bas sont dédiés hors de leur bastion.
Élisée Bayebek est chef d'entreprise à Yaoundé. Il prend le contre-pied des initiateurs des manifestations contre un organe prévu depuis 1996 dans la Constitution.
Ce n'est pas une bande d'individus qui veulent prendre un pays en otage pour leurs ambitions personnelles. Attendez, il faut arrêter tout ça un peu. Ne parlez plus de le MRCA, DICO, et ça va être... Ils sont plus importants que moi. Il y a beaucoup d'autres Camerounais comme moi. Nous pensons que nous pouvons faire tenir ces élections.
Depuis hier, le dispositif de sécurité a été renforcé à différents points stratégiques de Yaoundé, la capitale. Les policiers et gendarmes scrutent le moindre rassemblement. Le gouvernement a avisé que tout manifestant interpellé risque la condamnation à vie. À travers les conseils régionaux, le gouvernement entend transférer certaines compétences et doter les deux régions anglophones d'un statut particulier. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dakar et plusieurs régions du Sénégal sont sous les eaux après un week-end de fortes pluies quasi ininterrompues qui ont causé la mort d'au moins 5 personnes. Des jeunes ont manifesté leur colère dans plusieurs localités de la capitale. Le président Macky Sall a annoncé l'organisation de secours sans vraiment réussir à calmer les populations. Le point avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Kurma Sar, Djakhaï, Parcela Seni, Rompon et Kaz, Camberine. Les jeunes ont investi les rues sous la forte pluie pour bloquer la circulation et dénoncer les inondations interminables qu'ils vivent à chaque hivernage. L'intervention des forces de l'ordre ne fera qu'augmenter la grogne des populations. Paplaï, habitant de Camberine. Camberine est l'un des endroits les plus touchés par les inondations. Nous sommes tellement fatigués et très affectés par cette situation. On n'a plus d'endroit où dormir, des gens ont perdu la vie et le gouvernement ne montre aucune volonté. Si l'État avait fait son devoir, on n'en serait pas à ce niveau. Quand on a entendu le ministre de l'Intérieur parler du plan Orsec, on s'est rendu compte qu'il voulait trouver une justification à ce désastre. C'est juste de la politique, mais ils ne peuvent plus berner les victimes.
Victimes collatérales de la pluie et de la furie des manifestants, les usagers de la voie de dégagement nord ont été bloqués pendant des heures dans la circulation. Pour Pape Bounamo Diop, l'État est le seul responsable de cette situation désastreuse.
Ils ont stoppé toutes les voitures et nous ont bloqués dans les eaux pendant des heures de temps. Je pense que chacun a le droit de manifester sa colère, mais il y a des pots parce que les gens ne doivent pas payer. Moi, vu ce que j'ai vécu, l'État n'a pas fait son travail.
L'État affirme avoir injecté 750 milliards de francs CFA pour régler le problème des inondations, mais cette version est contredite par les populations qui disent n'avoir constaté aucune évolution. Sous couvert de l'anonymat, ce jeune habitant des parcelles assainies ne cache pas son désarroi.
Pour nous, on ne comprend pas parce qu'on ne peut pas admettre vivre cette situation depuis presque plus de 20 ans. Nous, depuis qu'on est petit, on vit la même chose. Chaque année, l'État nous promet de changer beaucoup de choses alors qu'ils ne le font pas. C'est vraiment désolant, mais on n'y peut rien. On ne nous donne pas d'autres lieux où on peut habiter. On est obligé de continuer à vivre ici. Du coup, on est vraiment dans la misère et on ne voit personne pour nous aider.
En visite dans la banlieue de Dakar pour s'enquérir de la situation, le ministre de l'Intérieur, Alingo Ndiaye, a annoncé que le budget pour l'organisation des secours est en cours d'évaluation.
C'est après avoir reçu les rapports de tous les gouverneurs que nous avons tenu une rencontre au ministère de l'Intérieur avec les techniciens qui doivent aujourd'hui évaluer le budget nécessaire pour qu'on puisse lancer le plan ORSEC tel que demandé par le chef de l'État. Mais en attendant de finaliser ce chiffrage du plan, nous avons déjà fait des opérations.
En attendant l'apport du plan ORSEC annoncé par le président Macky Sall, les conséquences causées par les fortes pluies du week-end se sont déjà fait sentir avec des eaux qui ont coupé des axes routiers importants dans plusieurs localités du pays. À Dakar, la Société nationale des transports Dakar-Dendik a d'ailleurs annoncé la suspension des bus qui assurent la desserte en banlieue. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La Turquie et les États-Unis sont des alliés au sein de l'OTAN depuis presque 70 ans. Ce partenariat est basé sur des intérêts et le respect mutuel axé sur des éléments comme la sécurité et la stabilité régionale, la coopération économique et le progrès des droits humains. Les États-Unis sont aussi solidaires à la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. La coopération antiterroriste est un élément clé de notre partenariat stratégique. C'est précisément parce que nos pays sont unis dans la lutte contre la menace du terrorisme que les États-Unis ont récemment exprimé leur vigoureuse objection à l'accueil par le président Recep Tayyip Erdogan des deux leaders du Hamas à Istanbul le 22 août. Ainsi que la porte-parole du département d'État Morgan Ortegas l'a souligné dans une déclaration écrite, le Hamas est désigné organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne et les deux responsables accueillis par le président Erdogan sont des terroristes mondiaux spécialement désignés. Le Hamas s'est dédié à la destruction d'Israël et l'édification d'un État islamique allant du fleuve Jourdain à la Méditerranée. Il prend souvent les civils pour cible et ses armes incluent des missiles, des kamikazes, des couteaux et des tunnels terroristes. Ismaël Haniyeh, au responsable politique du Hamas, est l'un des hommes que le président Erdogan a rencontré à Istanbul. Lorsque Haniyeh a été ajouté en 2018 à la liste des terroristes mondiaux spécialement désignés, le département d'État l'avait qualifié de leader terroriste clé qui menaçait la stabilité du Moyen-Orient, sapait le processus de paix et attaquait nos alliés, l'Égypte et Israël. La seconde personne reçue par le président Erdogan est le chef adjoint du Hamas, Salil Al-Arouri. Al-Arouri a été lié à plusieurs attaques terroristes, détournements et enlèvements. C'est la personne ayant annoncé la responsabilité du Hamas dans l'attaque terroriste de 2014, dans laquelle 3 adolescents israéliens ont été enlevés en Cisjordanie et tués. Il avait loué le meurtre comme étant une opération héroïque. Les États-Unis offrent une prime pouvant atteindre 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation. Ainsi que la porte-parole du département d'État Morgan Ortegas l'a relevé, la rencontre d'août était la seconde de cette année en Turquie entre le président Erdogan et la direction du Hamas. Le soutien continu du président Erdogan à cette organisation terroriste, a-t-elle dit, ne contribue qu'à isoler la Turquie de la communauté internationale, nuit aux intérêts du peuple palestinien et sape les efforts mondiaux en vue de prévenir les attaques terroristes lancées de Gaza. Nous continuons d'exprimer nos préoccupations au sujet des relations au plus haut niveau du gouvernement turc avec le Hamas.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix.